Lors de la session de printemps 2007, le Parlement a accepté le second volet de la réforme de la loi sur l'imposition des entreprises. Alors que la première réforme de 1997 s'était penchée sur les holdings, cette seconde réforme vise les petites et moyennes entreprises, les fameuses PME, véritable épine dorsale de l'économie suisse. Cette réforme contient une série de mesures qui sont destinées à soulager la charge fiscale qui pèse sur les PME. Elle s'articule autour de deux grands axes, la double imposition d'une part et les obstacles fiscaux qui se manifestent durant les périodes difficiles de la vie d'une entreprise. Nous commencerons par la double imposition qui est non seulement le volet le plus important de cette réforme, mais aussi le volet le plus contesté politiquement. Bernard Leschaud, expliquez-nous ce qu'on comprend sous le terme de double imposition.
Le bénéfice est d'abord taxé au niveau de l'entreprise par le biais de l'impôt sur les bénéfices. Ensuite, si un dividende est versé aux actionnaires, celui-ci est taxé au niveau du contribuable sous la forme de l'impôt sur le revenu. C'est la raison pour laquelle on parle de double imposition. Plusieurs pays ont déjà atténué, voire supprimé cette double imposition. En Suisse même, 17 cantons ont aussi pris des mesures et le processus est en cours dans 3 autres. L'idée de la réforme qui vous est soumise aujourd'hui est d'atténuer cette double imposition au niveau fédéral également. La révision de la loi prévoit que les dividendes et autres gains découlant de la fortune commerciale ne soient plus taxés qu'à 50% s'ils vont dans la fortune commerciale ou qu'à 60% s'ils vont dans la fortune privée. Mais attention, cet allègement n'est pas destiné à tous les actionnaires. Il ne bénéficiera qu'à ceux qui détiennent une participation minimale de 10% dans le capital de l'entreprise. En clair, cette révision vise à soulager les PME et leurs possesseurs. Dans sa documentation, le Département fédéral des finances écrit d'ailleurs que la réforme permettra, je cite, « de réduire les impôts qui érodent la substance des PME ». Mais pour les opposants, comme nous l'entendrons tout à l'heure, il s'agit là d'un cadeau fiscal fait aux gros actionnaires, un cadeau parfaitement injuste. Un cadeau qui aura de surcroît un impact sur l'AVS, puisque les gros actionnaires qui travaillent également pour l'entreprise dans laquelle ils ont investi vont s'octroyer plus de dividendes et moins de salaires. Or, les salaires sont soumis à l'AVS, alors que les dividendes ne le sont pas.
Mais Bernard, cette réforme ne se limite pas à l'atténuation de la double imposition.
Effectivement, d'autres mesures sont également prévues pour soulager fiscalement les entreprises confrontées à une période difficile. Une période difficile, ce peut être par exemple une succession ou une restructuration. Parmi ces mesures, on compte des allègements fiscaux en cas de transfert d'immeubles de la fortune commerciale à la fortune privée. Cela simplifie les successions du fait que l'imposition de bénéfices fictifs est ainsi supprimée. La réforme prévoit également le report de l'imposition en cas de reprise d'une entreprise, ce qui permet de faciliter la poursuite de l'exploitation. Dernier exemple de ces mesures, l'extension de la notion de « remploi ». Le terme n'est pas vraiment connu du grand public, mais cette notion peut être expliquée avec un exemple assez simple. Si le patron d'une PME vend un camion, il réalise un gain. Ce gain ne sera pas soumis au fisc s'il sert à acheter un autre camion. On parle alors d'équivalence. En revanche, si ce gain sert à acheter un matériel différent, comme des ordinateurs par exemple, il sera taxé. Cette pratique pénalise les entreprises qui veulent ou doivent se réorienter. C'est pourquoi la réforme prévoit cette extension de la notion de remploi. Signalons enfin que la réforme donne la possibilité aux cantons de supprimer l'impôt sur le capital s'ils perçoivent déjà un impôt sur le bénéfice.
Le gouvernement et la majorité bourgeoise du Parlement sont favorables à ce deuxième volet de la réforme de l'imposition des entreprises. Pour la conseillère nationale libérale de Genève, Martine Brunschwig-Graf, cette réforme est même indispensable.
C'est une réforme qui vise les petites et moyennes entreprises, qui représentent quasiment 99% des entreprises en Suisse, qui ont besoin de moyens pour fonctionner, qui ont besoin de gens qui investissent, de gens qui permettent de développer, puis aussi besoin de mesures qui facilitent la transmission des entreprises quand le chef d'entreprise, par exemple, veut que quelqu'un lui succède. C'est tous ces problèmes qu'on essaie de résoudre.
Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette réforme aide dans ces cas-là ?
Si vous voulez, ça suit plusieurs principes. Le premier principe, c'est supprimer une partie de la double imposition qui existe puisqu'on impose à la fois le bénéfice et le dividende, mais ça c'est une partie. C'est aussi une réforme qui permet de reporter la perception de l'impôt ou le paiement de l'impôt au moment où on a fait vraiment un gain à réaliser. Souvent, quand on transmet une entreprise, on doit dédommager les autres membres de la famille. Mais si en plus, on doit payer un impôt sur les réserves latentes, ça devient par exemple un problème assez énorme pour celui qui reprend l'entreprise et qui ne peut pas en plus dédommager les autres. Donc, c'est tous ces problèmes-là. En plus de ça, il y a aussi le fait d'éviter de porter atteinte à la substance même de l'entreprise. C'est donc la suppression de l'impôt sur le capital dans les cantons quand on le veut et qu'il y a déjà un impôt sur le bénéfice. C'est toutes ces mesures qui permettent au fond à l'entreprise de mieux fonctionner ou de mieux durer.
Vos opposants prétendent que supprimer cette double imposition, c'est quelque chose d'injuste parce que les salariés, eux, sont payés à plein, alors que des actionnaires qui ont à peu près 10% de l'entreprise ou plus, eux, bénéficieraient d'un taux réduit.
Bon, d'abord, on doit rappeler que les salariés dans les cantons, on a la possibilité et au niveau fédéral d'exonérer de l'impôt les salariés jusqu'à un certain montant. C'est le cas à Genève où à peu près 37% des contribuables ne payent pas d'impôt parce qu'on peut déduire de ces impôts un certain montant. Hein. Donc c'est tout à fait clair que pour les salariés, il y a déjà des mesures. Maintenant, pour ceux qui investissent dans les entreprises et qui ont plus que 10% des actions, contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas les richissimes messieurs à gros cigares, ce sont des gens qui investissent dans des petites et moyennes entreprises, qui croient en leur destin, et pour cela, ils ne payeront que 60% des dividendes. Donc, ils payent une partie de l'impôt, 60% des dividendes. Comme le bénéfice est déjà imposé, ça permet à l'entreprise d'avoir des fonds pour pouvoir continuer et se développer. C'est loin d'être injuste.
Autre injustice peut-être, pourquoi seulement les actionnaires qui ont à partir de 10% du capital, si par exemple j'ai investi 50 000 francs dans, je sais pas, Novartis ou Kudelski, je prends aussi un risque
Non, je prends pratiquement aucun risque et surtout j'essaye de gagner de l'argent pour mon petit porte-monnaie. Pourquoi plus 10% et plus? Parce qu'on estime que ça touche les personnes qui croient dans l'entreprise et pas seulement dans celle de Novartis, hein, mais dans des petites et moyennes entreprises qui ont vraiment besoin de moyens, qui croient suffisamment dans l'entreprise pour prendre des risques pour cette entreprise. Et c'est pour ça qu'on a mis la limite à 10% et plus.
Il y a aussi un problème au niveau international, parce que selon des statistiques, la Suisse est très mal classée dans cette double imposition. Beaucoup de pays ont déjà fait cette réforme.
Dans la plupart des pays, il n'y a pas de double imposition, ce qui fait qu'au fond, la Suisse est déjà décalée par rapport à ça. Et aujourd'hui, le fait de n'imposer que 60% des dividendes, ce n'est pas supprimer la double imposition, mais c'est au moins l'alléger considérablement, et ça permet à la Suisse d'être concurrentielle.
Qu'est-ce qui se passe si on n'accepte pas cette réforme? Est-ce que ça péjore la situation pour les petites et moyennes entreprises ou on pourrait continuer comme ça?
Moi, je vais vous donner un exemple qui n'a rien à faire avec les bénéfices et les dividendes. Dans ce projet, il y a une mesure qui, pour une fois, n'impose plus de façon confiscatoire le bénéfice lorsqu'on réalise une entreprise. Pour des personnes qui ne sont pas des sociétés anonymes, lorsqu'ils réalisent leur entreprise, ils sont imposés de telle façon qu'au fond, ils voient disparaître la plus grande partie de leur bénéfice. Et souvent, ce bénéfice, c'est leur deuxième pilier. Et c'est pour ça qu'ils travaillent bien au-delà de l'âge normal, parce qu'ils n'osent pas remettre leur entreprise, parce qu'ils ne savent pas comment vivre après. Si on menace cette réforme aujourd'hui, on empêche les gens de plus de 55 ans de bénéficier d'une meilleure imposition qui leur permettrait de transmettre leur entreprise à des gens plus jeunes qui pourraient la faire fructifier. On essaye d'empêcher la disparition de petites et moyennes entreprises avec cette réforme.
Alors, il y a quelques années, on avait déjà fait une première réforme. Ça concernait plutôt les holdings. Maintenant, on s'attaque aux PME. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire dans ce cadre ou on s'arrête avec cette deuxième réforme?
Alors, je dirais que l'autre réforme, ce sera celle de la TVA, c'est-à-dire de simplifier notamment les mesures administratives pour les entreprises. Aujourd'hui, la TVA, c'est un labyrinthe et les entreprises n'ont aucune chance d'appliquer correctement la loi sans avoir d'ennuis. La plupart du temps, il y a toujours un défaut. Donc, la simplification de la TVA et puis probablement un ou deux taux ou en tout cas une unification des taux. Ça facilitera la vie de toutes les entreprises et ce sera bon pour l'emploi. Mais c'est à venir dans cette législature.
Cet avis n'est pas partagé par la gauche. Battu dans l'enceinte du Parlement, le Parti socialiste a lancé un référendum victorieux contre cette réforme de l'imposition des entreprises. S'il en appelle ainsi au peuple, c'est que le Parti socialiste considère que cette réforme est injuste, ainsi que le souligne le conseiller aux États fribourgeois Alain Berset.
Elle est injuste parce que c'est une diminution fiscale très importante Ça pourrait comporter à la fin jusqu'à 2 milliards entre les cantons et la Confédération. Et c'est une réforme qui va baisser les impôts pour une toute petite minorité de la population, moins d'1% de la population, qui est le pourcent de la population qui est plutôt le plus aisé, qui a déjà des moyens importants aujourd'hui. Et donc c'est injuste parce que ça concerne beaucoup trop peu de monde et que ça ne concerne pas les gens que ça devrait toucher, à savoir les revenus moyens, la classe moyenne et les bas revenus.
Ceux qui ont soutenu cette réforme disent de l'autre côté il y a une injustice dans le sens que les propriétaires de petites et moyennes entreprises sont taxés deux fois.
Pour moi, c'est clairement faux. Vous savez, 2/3 des entreprises dans notre pays sont des sociétés de personnes. Donc, il n'y a pas de taxation deux fois. Il n'y a qu'une seule taxation sur l'entreprise. Pour l'immense majorité des entreprises, c'est comme ça. Maintenant, il y a un cas particulier qui sont les sociétés anonymes, où là, effectivement, la société anonyme est taxée une fois, parce que c'est une entité propre. Et puis, où, naturellement, celui qui est propriétaire des actions, comme personne physique, est aussi taxé sur son revenu. Ce qui est absolument juste, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a d'injustice. On pourrait faire évoluer ces choses. Moi, j'étais d'ailleurs très, très ouvert à ce qu'on puisse discuter de cette question. Mais la majorité a agi de façon très dogmatique et a refusé d'entrer en matière sur des propositions d'aménagement qui auraient permis de nous approcher de la fiscalité des systèmes qui sont connus dans d'autres pays.
Justement, dans d'autres pays, en Europe en général, on a réduit la double imposition. Il y a une étude de l'OECD qui dit que la Suisse est à la 28e place sur 30 pays. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement un problème là ?
Non. Vous savez, moi j'étais d'accord de réduire la double imposition, ou ce qu'on appelle la double imposition. Mais en parallèle, il aurait fallu créer un impôt sur les gains en capital, qui existe aussi dans les 28 pays dont vous me parlez, là, qui sont devant la Suisse. Il y a effectivement un impôt un peu moins élevé sur les dividendes, mais il y a un impôt sur les gains en capital. La Suisse est bientôt le dernier pays du monde qui ne connaît aucun impôt sur les gains en capital. Et ça, ça pose quand même un problème. On aurait dû pouvoir parler de cela, mais encore une fois, la majorité a été très carrée, très dure avec ces questions-là, et s'est pas tellement préoccupée d'améliorer la situation. Elle s'est surtout préoccupée de faire des cadeaux à sa clientèle, même si c'est très très peu de monde. Ce sont les plus riches, et ils auront de quoi dire merci si ce projet devait passer la rampe.
Vous avez parlé aussi des pertes fiscales que cette réforme va comporter. De l'autre côté, on dit si les entreprises payent moins d'impôts, elles ont plus de possibilités de développer leur activité et finalement ça va donner des avantages économiques à l'économie suisse en général et alors aussi augmenter à long terme les recettes fiscales.
Il faut être clair, ce projet ne diminue pas d'un seul franc les impôts des entreprises. Il diminue les impôts des personnes qui sont propriétaires d'actions. C'est pas tout à fait la même chose. Il faut arrêter de parler de projet de diminution des impôts des entreprises. L'impôt des entreprises ne va pas bouger d'un franc avec cela. Ce sont les personnes les plus riches qui vont voir leurs impôts baisser de façon importante. C'est le premier point. Le deuxième point, moi je suis tout à fait ouvert à ce qu'on discute de l'imposition des entreprises. Mais à ce moment-là, il faut vraiment parler des entreprises et pas chercher à faire des cadeaux aux propriétaires de ces entreprises. Et puis troisième point, l'immense majorité des emplois dans notre pays est assurée par des toutes petites entreprises. Soit des entreprises de personnes qui sont exclues de ce projet, soit de toutes petites sociétés anonymes qui ne versent pas de dividendes et donc qui sont aussi, dont les propriétaires sont aussi exclus de ce projet. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire qu'un seul emploi va être gagné avec ce projet. C'est même plutôt le contraire, parce qu'il pourrait y avoir une tendance des actionnaires à retirer les investissements des entreprises, donc à affaiblir les entreprises, puisqu'ils auront moins d'impôts à payer, quasiment plus d'impôts à payer sur les dividendes. Et un autre élément très très important, c'est que ce projet va avoir pour conséquence des pertes de recettes très importantes aussi pour l'AVS. L'AVS, qui est une assurance sociale très importante dans notre pays. Et là, évidemment, avec ce projet, on donne la possibilité aux grands détenteurs d'actions de diminuer la part de salaire qu'ils se versent quand ils travaillent dans l'entreprise pour augmenter les dividendes. Et sur les dividendes, il n'y a plus de cotisation à l'AVS, il n'y a plus de cotisation à l'AI, il n'y a plus de cotisation à l'assurance chômage et toutes les assurances sociales sont exclues. Ce serait un privilège incroyable pour une toute petite portion de la population qui pourrait se permettre de bénéficier de ces assurances sociales sans plus payer les cotisations, ce qui, au regard de la situation d'Irlande, rentiers, au regard de la situation des salariés, est parfaitement inacceptable.
Dans la réforme, il y a aussi d'autres mesures, au-delà de la question de la double imposition, des mesures pour, disons, aider les entreprises en cas de restructuration, de succession. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous dites sur ce côté, sur cette partie-là de la réforme ?
Cette partie de la réforme, je la soutiens complètement. Et pour bien le montrer, nous avons déposé cet hiver aux chambres fédérales des motions pour dire que si ce nouveau paquet fiscal tombe le 24 février prochain, alors ces mesures pour les toutes petites entreprises doivent être reprises immédiatement et mises en vigueur tout de suite, ce qui serait possible puisqu'il n'y a pas d'opposition. Si ces mesures qui sont incontestées se retrouvent maintenant dans ce paquet soumis à référendum, c'est aussi parce que la majorité a fait preuve d'un certain cynisme. Et c'est dit, très bien, on va prendre ces mesures qui sont incontestées et qui plaisent à beaucoup de monde, on va les mettre dans ce projet pour tenter de faire passer la partie la plus difficile, à savoir les cadeaux incroyables aux plus gros actionnaires.